Alena Gabertova vous présente le bulletin d'information. À l'occasion des festivités liées au 60e anniversaire de la fin de la guerre, l'Autriche se féliciterait d'un geste de conciliation de la part du gouvernement tchèque à l'égard de la minorité allemande. Cette idée a été émise par le chancelier autrichien Wolfgang Schüssel lors de sa visite à Prague. Il a également annoncé que l'Autriche ne comptait pas ouvrir son marché de travail aux citoyens tchèques. Schüssel et son homologue tchèque Stanislav Gross ont tenu à souligner l'importance de la ratification de la Constitution européenne, un document qui profite, d'après leur déclaration, à l'ensemble des pays de l'Union européenne, y compris les petits et moyens États. Près de 270 millions de couronnes ont été récoltées à ce jour en République tchèque qui seront destinées aux régions sinistrées par la catastrophe naturelle à Nancy. L'aide que l'État et les ONG tchèques vont accorder à la région se concrétise. Ainsi, par exemple, un hôpital mobile tchèque déployé dans le sud de Sri Lanka sera mis en marche dès ce vendredi. L'association ANRA prévoit édifier en Indonésie, près de la ville de Malabo, une dizaine d'écoles. Ce jeudi, le président Václav Klaus a eu au château de Prague des conversations avec Miroslav Kalousek, chef des chrétiens démocrates, l'un des trois partis de la coalition gouvernementale. Les priorités de ces derniers en 2005, les questions des budgets publics, de la politique étrangère et de la sécurité, voilà les thèmes qui ont été évoqués. Des contrôles plus rigoureux de la police sur les routes tchèques ont été introduits dès ce jeudi après-midi sur l'ensemble du territoire. Il s'agit notamment de tests d'alcool, mais pas seulement. On ne sait pas jusqu'à quand durera cette action policière. Par ailleurs, la police prévoit une vingtaine d'actions pareilles au cours de cette année. Le président Klaus a signé la loi modifiée qui rendra plus rapide à partir du mois d'avril prochain les procédures judiciaires civiques. Excursion dans l'ère tertiaire est le nom d'une exposition qui a été ouverte au Musée national de Prague et qui durera jusqu'à la fin du mois de mars. L'Opéra d'État de Prague achève sa tournée au Japon qui a commencé le 3 janvier et rentre ce vendredi dans le pays. Il avait présenté au public japonais, entre autres, la flûte enchantée de Mozart. Météo, un vent particulièrement vigoureux avec la République tchèque, des pluies et des chutes de neige en montagne notamment marqueront la météo ce vendredi. Les températures diurnes se situeront entre 1 et 5 degrés. Il va faire plus froid au début de la semaine prochaine. C'était le journal de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
L'État intervient dans le litige concernant les forêts en République tchèque. On a évoqué lors d'une conférence de presse Petr Ginz, garçon juif dont le sort est comparé à celui d'Anna Frank. À l'occasion de l'année Einstein, nous parlerons du séjour pragois de ce chercheur qui a révolutionné les sciences. Un projet de chemin de fer qui relierait l'aéroport de Prague-Ruzyně au centre de la capitale tchèque a été soumis au gouvernement. Les sportifs sourds et malentendants ont leurs Jeux olympiques. Voilà ce qu'il y a au menu de cette émission, préparée pour vous par la section française de Radio Prague. En Tchéquie, comme un peu dans tous les pays européens, les bois et forêts peuvent être des propriétés privées ou publiques. Les bois et forêts publiques sont administrés par une entreprise d'État, les forêts de la République tchèque. Le ministre de l'Agriculture vient d'en révoquer son directeur, Alain Slivinsky.
Jaroslav Palas, ministre de l'Agriculture, vient de révoquer le directeur général des forêts de la République tchèque, Kamil Vislišel, un directeur qu'il avait nommé lui-même il y a un peu plus d'un an après avoir limogé son prédécesseur. En même temps que le directeur général, le président du conseil d'administration de l'entreprise publique, Jan Gruza, a été renvoyé. Quelles sont donc les raisons d'une telle révolution à la direction des forêts de la République tchèque ? Quelques précisions par Martin Severa, porte-parole du ministère de l'Agriculture. Il y avait de gros problèmes de communication. Le ministre pense qu'après ce changement, les relations entre le ministère et les forêts de la République tchèque s'amélioreront. Un appel d'offres sera lancé pour le poste de directeur général de l'entreprise publique. Le plus gros problème de communication entre la direction et le ministère réside dans le fait que les forêts de la République tchèque ont dénoncé l'année dernière des contrats avec les exploitants forestiers privés sans avoir consulté auparavant le ministère. Naturellement, les entreprises privées ont été sérieusement touchées. En plus de cela, la direction n'a pas conclu de nouveaux contrats pour cette année, alors qu'elle aurait dû le faire au mois de juin dernier déjà. Pour l'association des exploitants forestiers tchèques, la révocation du directeur général et du président du conseil d'administration est insuffisante. Il faudrait changer toute la direction. En effet, sans contrat annuel ou à long terme, l'entreprise des forêts de la République tchèque devra passer des commandes individuelles avec les différentes sociétés privées, ce qui compliquera sérieusement vraiment l'administration. La plus grosse société tchèque, CE Wood, a décidé de passer outre et de continuer l'exploitation sur la base de l'ancien contrat. Jusqu'à quand? Un fait est certain, la direction des forêts de la République tchèque a fauté. L'Office pour la protection de la concurrence économique vient d'ailleurs d'entamer une procédure judiciaire contre l'entreprise publique. Elle se serait rendue coupable d'un délit en révoquant les contrats d'exploitation des entreprises privées à la fin de l'année dernière. Affaire à suivre.
Le ministère tchèque de l'informatique a émis le 20 janvier un timbre de collection tout à fait exceptionnel. Il présente un dessin intitulé « Le paysage lunaire », œuvre de Peter Ginz, jeune garçon juif mort en 1944 dans le ghetto de Térésine en Bohême centrale. Le sort de ce garçon ainsi que celui de son dessin sont remplis de symboles. La présentation du timbre a eu lieu au musée juif de Prague et Arkady Sublova a invité au micro son directeur Léo Pavlat, qui a un grand mérite dans son émission.
Známka s kresbou Petra Ginze má celá výjimečný osud. Jednak s ohledem na osud Petra Ginze.
La destinée du timbre avec le dessin de Peter Ginz est tout à fait exceptionnelle. D'abord à l'égard de la destinée de Peter Ginz. Garçon juif énormément talentueux qui a péri à l'âge de 16 ans à Auschwitz. Le dessin a vu le jour dans le ghetto de Térésine en tant qu'illustration de son livre de science-fiction intitulé « La planète Terre vue depuis la Lune ». En 2003, le dessin a été porté à bord de la navette spatiale Columbia par le cosmonaute israélien Ilan Ramon. L'événement avait alors une valeur symbolique, celle de réaliser, 58 ans plus tard, le rêve de Peter Ginz de regarder la Terre depuis le cosmos. Le vol, comme on le sait, s'est terminé tragiquement, ce qui ne change rien à la valeur de cet acte. Après la tragédie de Columbia, qui s'est désintégrée le 1er février 2003, une pétition en faveur de l'émission d'un timbre est née spontanément parmi les philatélistes. Son écho fut énorme dans beaucoup de pays, dont Israël. Et j'ai demandé à l'administration des postes d'inclure le projet dans le plan d'émission. Il s'agit du troisième timbre, avec la thématique juive, émis en République tchèque, et le premier émis cette année. Par un concours de circonstances, le timbre paraît peu avant le 27 janvier, journée de commémoration des victimes de l'Holocauste que la République tchèque célèbre officiellement pour la première fois cette année. Par un autre concours de circonstances, le timbre paraît peu avant le deuxième anniversaire de la désintégration de Columbia. La présence du cosmonaute israélien Ilan Ramon à son bord a eu une importance particulière pour Israël. Nous savons tous dans quelles circonstances Israël est né. C'est le pays avec le plus grand nombre de survivants de la Shoah et l'idée de porter dans le cosmos le dessin de Peter Ginz est venue du musée de l'Holocauste de Jérusalem, Yad Vashem, qui l'avait dans ses collections.
Z památníku Yad Vashem, že památník obětem holokaustu v Jeruzalémě, v jehož sbírkách ta kresba je.
Cette année, l'Allemagne fête le centenaire de la publication des travaux d'Albert Einstein, qui ont marqué la naissance de la physique moderne, rendant par la même occasion hommage au physicien disparu il y a 50 ans. Prague aussi peut se joindre à ces commémorations, puisque la ville l'a accueilli de 1911 à 1912. Anna Kubishta nous en dit plus à ce propos.
Qui ne connaît pas la formule E égale MC2 ? Qu'on y comprenne quelque chose ou pas, même le plus ignorant des cancres l'a au moins entendu une fois dans sa vie. Quel élève un peu médiocre en cours, mais pas mauvais bougre, n'a pas secrètement gardé espoir en apprenant que le jeune Albert Einstein, considéré plus tard comme un génie pour sa découverte de la théorie de la relativité, avait raté ses examens de fin d'année au lycée. Si le domaine de la physique reste souvent quelque peu brumeux, voire totalement obscur pour le grand public, Einstein, quant à lui, est l'un des rares scientifiques qui ne risque pas de disparaître des esprits, des plaques de rue et de façade, ou bien même, plus étrangement, des enseignes de pizzeria, comme c'est le cas à Prague notamment. Et pour cause, en 1911, soit 6 ans après ses premières publications sur la relativité, il est appelé à exercer les fonctions de professeur titulaire à l'université allemande de Prague. D'après Stefan Zajac, président de la Société tchèque des physiciens et mathématiciens, qui s'exprimait ce jeudi dans le quotidien Lidové Noviny, cette université a été la première au monde à accueillir Einstein comme professeur titulaire et de plein droit. Il explique qu'en outre, le pays connaissait à l'époque un véritable essor de la physique qui pouvait le mettre à l'égal de pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou la France. Au cours de son séjour pragois, Einstein aurait rédigé une dizaine d'ouvrages, dont l'un sur la théorie de la gravitation, est considéré comme le début de la théorie générale sur la relativité. Celle-ci fut publiée en 1916 et provoqua un véritable tollé dans le monde scientifique, puisqu'elle ébranlait les lois de Newton en restreignant la validité. Et pour la petite histoire, le lien d'Albert Einstein au pays tchèque était aussi plus sentimental, puisque sa dernière compagne, rencontrée aux États-Unis en 1940, en était originaire. Le destin de celui qui est considéré comme l'un des plus grands physiciens, sinon le plus grand, est étroitement imbriqué dans l'histoire tourmentée de l'Europe du XXe siècle, puisque d'origine juive, il fuit l'Allemagne nazie en 1933 pour se réfugier aux États-Unis. Tourmenté par les conséquences que ses recherches pouvaient avoir, puisqu'elles servaient de base à la fabrication de la bombe atomique, il fit part de ses craintes au président Roosevelt à propos des travaux avancés de l'Allemagne nazie pour sa fabrication, et plus tard, combattit avec vigueur en faveur de la paix et du désarmement. Son engagement intellectuel le fit se joindre au plus grand nom pour protester contre la condamnation à mort de la politicienne tchèque Milada Horáková lors des grands procès staliniens des années 50.
Le projet de construction d'une ligne de chemin de fer entre l'aéroport de Prague-Ruzyně et le centre de la capitale tchèque a été présenté au gouvernement. Cette nouvelle liaison ferroviaire utiliserait en partie une voie ferrée déjà existante. Elle pourrait résoudre un problème qui risque de s'aggraver encore davantage dans un proche avenir. L'aéroport de Prague est mal desservi par les transports en commun et les passagers débarquant à Prague sont souvent livrés à la merci des chauffeurs de taxi dont certains demandent pour leur service des prix inadéquats. Le gouvernement s'est limité à prendre en considération le projet de construction d'une voie ferrée entre la gare Masaryk et l'aéroport, sans donner son avis sur cette initiative et sans promettre de la financer. Le cabinet semble éviter de s'engager dans un débat qui divise ces derniers temps les Pragois. Une partie des spécialistes et des habitants de la capitale refuse le chemin de fer et lui préfère le prolongement d'une ligne de métro jusqu'à l'aéroport. Parmi les partisans du métro, il y a entre autres le maire de Prague, Pavel Bém. Vu le nombre réduit de stations, le chemin de fer sera sans utilité pour le 6e arrondissement de Prague qu'il traverse, dit-il. Par contre, selon le maire, la nouvelle ligne de métro réunirait 3 qualités importantes. Une liaison rapide et bon marché entre le centre-ville et l'aéroport, plusieurs quartiers à population dense seraient mieux desservis par les transports urbains, et enfin, on élargirait les possibilités de transport entre Prague et la Bohême centrale. Cet avis est appuyé aussi par la mairie du 6e arrondissement qui reproche au projet de chemin de fer de couper l'arrondissement en deux. Par contre, le ministère des Transports et des Communications est de notre avis. Le ministère rappelle que déjà en 2000, des experts s'étaient prononcés clairement dans une étude commandée par la municipalité de Prague en faveur du chemin de fer. Le ministère constate cependant qu'il continue de négocier sur ce problème avec les arrondissements concernés et que le débat se poursuivra aussi dans l'avenir. Du 5 au 16 janvier se sont tenus à Melbourne les 20e Deaflympics Games, Jeux olympiques d'été des sourds et malentendants. Plus de 3500 sportifs, parmi lesquels 46 Tchèques, ont participé à l'événement en multisport, le 10e plus ancien au monde. Au total, ce sont 6 médailles que 3 athlètes et un coureur cycliste tchèque ont ramené d'Australie. Guillaume Narguet s'est intéressé à cette manifestation exceptionnelle.
C'est en France, en 1924, qu'a vu le jour le Comité international des sports silencieux. La même année, à Paris, sont organisés les premiers Jeux mondiaux silencieux, réunissant 133 concurrents de 9 pays européens. Pourtant, il fallut encore attendre 31 ans pour que le Comité international olympique, en 1955, reconnaisse officiellement le Comité des sports silencieux comme fédération internationale à rang olympique. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques des Sourds restent une manifestation très mal connue du grand public, ce dernier la confondant volontiers avec les Jeux Paralympiques. Pendant longtemps, la question fut de savoir si oui ou non, le Comité international des sports silencieux devait être rattaché au Comité paralympique. Mais derrière cette question se cache une autre interrogation. Pourquoi les sourds qui ne sont pas handicapés physiquement pratiquent-ils leur activité à part des autres sportifs valides? Mercredi, les quatre représentants tchèques à avoir ramené 6 médailles de Melbourne ont été présentés à la presse. À cette occasion, le président exécutif du Comité paralympique tchèque, František Janouch, nous a fourni quelques explications.
Těžko se to vysvětluje, ale já to řeknu, jak to je. Všechny formace, společné formace...
C'est difficile à expliquer, mais je vais dire les choses telles qu'elles sont. Toutes les associations de personnes handicapées se retrouvent de temps en temps dans des situations de conflit, et cela à cause d'une question très étrange. Qui est le plus handicapé? Qui va le plus mal? En République tchèque, nous avons résolu ce conflit en nous mettant d'accord pour ne plus en parler. C'est la seule manière raisonnable pour parvenir, car autrement c'est une question à laquelle il n'est pas possible de répondre. Quoi qu'il en soit, l'UNESCO a réalisé une étude et a mesuré les différents handicapés selon des critères plus ou moins fiables. Il en est ressorti que les personnes les plus handicapées sont les handicapés mentaux, ensuite les sourds et seulement après les autres handicapés. Pourquoi en est-il ainsi? Imaginez que vous êtes quelqu'un qui n'entend rien du tout. Depuis que vous êtes tout petit, vous utilisez le langage des signes pour vous exprimer. Cela constitue votre monde, votre univers. Mais le langage des signes est un monde dans lequel les noms communs sont déclinés avec un seul cas, et les verbes ne sont pas conjugués, ils sont tous à l'infinitif. C'est un langage, et par conséquent, un monde très primitif. Et vous, dans le cadre limité de ce vocabulaire, vous découvrez un autre monde extérieur au vôtre. Lorsque vous arrivez à l'école, on vous apprend à lire. C'est une situation comparable à celle que nous avons connue lorsque nous étions forcés d'apprendre le russe. Seulement, à la sortie de l'école, nous ne nous rappelions plus un seul mot de russe et parlions tchèque. Pour les sourds et muets, c'est la même chose dès qu'ils sortent de l'école. Ils communiquent de nouveau avec les signes. Ils apprennent donc à lire, mais c'est la même chose que pour une langue étrangère. Si vous ne la parlez pas, vous oubliez. C'est pourquoi la grande majorité des personnes qui n'entendent pas, ne savent pas lire, et ce malgré qu'ils aient appris à le faire à l'école. Et ils vivent dans leur propre monde, primitif, avec des verbes à l'infinitif. Et ils raisonnent même comme cela. Et c'est pour cela qu'ils pratiquent leur sport à part des autres, parce qu'ils ont leur propre monde.
Retrouvez les Jeux Olympiques des Sourds dans une de nos prochaines rubriques sportives diffusées le lundi et le mardi. Une émission spéciale sera agrémentée d'entretiens exceptionnels avec 2 médaillés tchèques.
C'était Faits et événements en République tchèque, une émission préparée par la section française de Radio Prague et présentée aujourd'hui par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi.
Miroir de la société à la lumière de la presse. Alena Gebertova.
Le sort des milliers de Tchécoslovaques qui se retrouvaient dans les camps de concentration soviétiques sera le premier thème de ce programme. Nous vous présenterons les grandes lignes de l'article paru dans le magazine Tiden qui y est consacré. Et à la fin, un portrait du peintre Rudolf Kundera, récemment décédé et incarnant parfaitement les attaches culturelles franco-tchèques. Portrait brossé par notre correspondant parisien.
Верьте в победу единства, смело шагайте вперед. Там, где тужны коммунисты, враг никогда не пройдет.
La notion de goulag, dénomination des camps soviétiques, est devenue notoirement connue grâce à l'apparition du célèbre ouvrage d'Alexander Solzhenitsyn, Archipel du goulag, au début des années 70. Depuis, les connaissances sur ce chapitre des plus sinistres de l'existence de l'Empire soviétique se sont considérablement élargies grâce aussi au livre Goulag de la plume de l'auteur américaine Anne Applebaum qui vient de sortir en version tchèque.
Sauf leurs témoins, on ne saura pourtant jamais imaginer toute l'ampleur de l'atrocité ni le malheur des camps. Probablement jamais on ne saura non plus quel était le véritable nombre et quels étaient les destins des Tchécoslovaques qui s'y sont retrouvés aux côtés des millions d'autres victimes de l'arbitraire communiste. De rares documents d'archives russes, des fragments d'histoire individuelle, quelques rescapés qui vivent encore. C'est tout ce qui en reste aujourd'hui.
Selon le magazine Tiden, le nombre de personnes déportées de l'ancienne Tchécoslovaquie dans des camps staliniens est évalué à 37 000. Les citoyens tchécoslovaques y venaient en plusieurs étapes et pour des motifs différents.
Avant la Deuxième Guerre mondiale, il s'agissait de Tchèques de gauche, pas forcément de communistes, attirés néanmoins par les idées communistes et qui sont partis vers l'Union soviétique pour s'engager dans des brigades.
On suppose qu'à la même époque, un grand nombre de Tchèques habitant la région de Volhynie, en Crimée, en Russie, où une importante communauté tchèque s'était installée au XIXe siècle, ont été envoyés au goulag.
En 1939, après l'occupation de la Tchécoslovaquie, quelques 500 personnes ont émigré en Union soviétique pour fuir le nazisme et pour y chercher un asile politique.
Inconnu demeure le sort d'un millier de juifs et demi d'Ostrava qui se sont sauvés d'un camp nazi pour fuir à l'est. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à la frontière, ils étaient arrêtés par des officiers du NKVD. On peut supposer qu'ils ont été acheminés par la suite à leur tour vers des camps.
20 000 habitants de l'ancienne Russie subcarpatique, qui faisait jusqu'à 1945 partie de la République tchécoslovaque, l'ont quitté dès son occupation par les Hongrois pour l'Union soviétique, en vue de rejoindre les légions tchécoslovaques.
Immédiatement après la fin de la guerre, les agents soviétiques ont emmené dans les goulags une partie des immigrés russes qui, après la révolution bolchevique de 1917, avaient fui la Russie et s'étaient fixés en Tchécoslovaquie. La plupart des prisonniers tchécoslovaques du goulag n'en sont pas revenus. Seul un heureux concours de circonstances a permis à certains d'entre eux de survivre. Certains ont été fusillés, d'autres mouraient d'épuisement, de mauvaise alimentation, de conditions climatiques rudes ou lors des transports. Aujourd'hui, les témoins se font rares.
Un très petit groupe de rescapés des camps soviétiques seulement vit encore. Ils sont tous âgés de plus de 80 ans. Ils préfèrent vivre à l'écart dans des conditions très modestes, peut-on lire dans Tiden.
Dans les camps du goulag, la mort était omniprésente. Antonin Popovitch, ancien habitant de la Russie subcarpatique, évoque les souvenirs du camp de Plesetsk dans la région d'Arkhangelsk, en Russie du Nord, dans lequel il a été déporté. Selon son témoignage, les conditions y étaient pires qu'au temps de la famine au Moyen-Âge.
En 1942, je construisais un chemin de fer. En été, ça allait encore. On pouvait cueillir les myrtilles et les gratte-culs que l'on trouvait un peu partout. Mais en hiver, c'était l'enfer. Avec la première neige, tous les fruits avaient disparu. Les températures descendaient jusqu'à moins 50 degrés. Les rations quotidiennes de pain étaient totalement insuffisantes. À chaque manquement à la discipline, on risquait d'être fusillé. Mais j'ai eu une grande chance, c'était la guerre, et on cherchait des volontaires. Ainsi, j'ai pu rejoindre l'armée du général Svoboda et rentrer plus tard avec elle dans le pays.
Antonin Popovitch, 81 ans, qui vit aujourd'hui à Slany, petite ville de la Bohême centrale, se déclare être en très bonne forme physique et psychique. Deux décès, deux pertes pour les liens franco-tchèques. Jiří Savíček nous a téléphoné de Paris.
Alors que Paris rendait ses hommages aux Invalides à Joseph Fischera, le sud de la France porte le deuil d'un peintre morave et français en même temps, Rudolf Kundera, une figure de l'histoire commune entre la France et la Bohême-Moravie. C'est un chapitre vivant, ancien et très riche des relations culturelles entre la France et la République tchèque qui se ferme. Peintre vivant de sa peinture, peut-on lire dans la notice nécrologique publiée en France. Et pour ceux qui connaissent, ne serait-ce que peu, la concurrence qui règne dans ce domaine en France, cette affirmation constitue la meilleure appréciation de la vie et de l'œuvre de peintre morave et français en même temps, Rudolf Kundera, qui vient de nous quitter au sud de la France à l'âge de 93 ans. Les couleurs chatoyantes de cette toile qui avait comme principale source d'inspiration la nature exubérante du sud de la France, ainsi que ses portraits de nombreuses personnalités et amis, sont devenus orphelins comme nous, avec le départ de Rudolf Kundera, l'homme qui aimait tant la ville ouvrière de Marseille et le sud de la France, grand amateur de musique, et surtout l'homme d'un optimisme inaltérable, malgré les nombreuses tragédies personnelles, l'homme surtout fidèle à ses amitiés anciennes, comme le confirme, par exemple, très ému, un autre peintre morave, Antonín Sládek, vivant aujourd'hui à Prague, la France a perdu aussi un héros de la dernière guerre. C'est lui qui a caché au péril de sa vie des plans stratégiques des fortifications ennemies du côté de Marseille qui ont contribué au débarquement de l'armée française au sud du pays en 1944. Mais avec son départ, c'est un chapitre important de la vie culturelle franco-tchèque qui perd sa mémoire vivante. Parmi ses amis pour la vie, comptaient des personnalités bien connues. Bohuslav Martinů, Rudolf Firkušný, Vítězslava Kaprálová, Jiří Mucha et bien d'autres. Rudolf Kundera, sa vie et son œuvre représentent un maillon solide des liens qui unissent l'histoire culturelle de la République tchèque d'aujourd'hui avec la France. Le principal obstacle pour son appréciation, comme le souligne tous ceux qui ont pu lui dire adieu à Cassis, reste sa modestie obstinée.
C'était le miroir de la société et c'est la fin de tout notre programme en français d'aujourd'hui.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430.